Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Ça me paraît à ce moment-là légitime. Les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, acceptent de s'isoler pendant cette période pour qu'on ait le temps de vacciner le reste de la population et de mettre toute la population à l'abri.
Faut-il demander aux plus âgés et plus fragiles de se confiner en attendant les vaccins? Le débat ressurgit, l'idée est à nouveau portée par le Conseil scientifique. Pfizer menace de réduire encore ses livraisons de vaccins après la recommandation européenne de prélever une sixième dose dans un flacon de 5. Le labo américain envisage de baisser le temps sa commande de flacons, c'est-à-dire moins 16%. Emmanuel Macron auprès des étudiants en souffrance. Il est ce matin sur le plateau de Saclay pour présenter un plan d'investissement dans les technologies quantiques. Les premières heures de Joe Biden à la Maison-Blanche, retour des conférences de presse quotidiennes, et puis une enquête ouverte dans le Val-d'Oise. Une jeune femme de 23 ans accuse les forces de l'ordre d'être responsable de sa fausse couche après une interpellation musclée. Invité d'Europe Midi, le cinéaste Thomas Lilti, réalisateur de la série Hippocrate ou de Première année au cinéma, qui a retrouvé sa vocation de médecin pendant la crise sanitaire et qui raconte son expérience dans un livre, Le Serment, chez Grasset.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
S'il y a plus de doses dans les flacons, alors il y aura moins de flacons dans les congélateurs. Voilà la position de Pfizer qui devrait nourrir une nouvelle controverse. Les flacons de 5 doses livrés par Pfizer contenant de quoi en faire une sixième. L'Agence européenne du médicament avait recommandé il y a 10 jours de ne pas gâcher. Mais voilà que le laboratoire américain décide du coup de réduire ses livraisons en arguant qu'on lui a acheté des doses et pas des flacons, Victor Delande.
Oui, la Commission européenne a commandé au total 600 millions de doses. La quantité sera bien livrée, nous assure le laboratoire américain. En revanche, Pfizer a décidé de diminuer d'un sixième le nombre de flacons livrés. Lorsqu'il en fournissait jusqu'à présent 20 pour 100 doses, comprenez 5 doses par flacon, ce sera désormais 16,6 flacons qui seront envoyés, nous explique le ministère de la Santé. Sauf que dans les centres de vaccination, pour le moment, on continue de prélever le plus souvent que 5 doses, comme l'explique le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
On essaye de faire 6 doses, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire, mais on ne peut le faire que dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, c'est quand on a le bon matériel, et le bon matériel n'est pas toujours disponible. La DGS, en quelque sorte, n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'elle fournisse le bon matériel partout. La question, c'est quand ce matériel va-t-il arriver ? Parce que tant qu'il n'arrivera pas, on n'arrivera pas à faire 6 doses dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on va vacciner globalement moins de personnes.
Ces seringues et ces aiguilles spécifiques ne sont pas disponibles pour le moment dans tous les centres de vaccination. Les fiches techniques mises à disposition des professionnels de santé vont être actualisées, nous assure la Direction Générale de la Santé, pour adapter les prélèvements dans le flacon. Mais déjà, la prochaine inquiétude, je vous l'annonce, c'est la disponibilité de ces seringues sur un marché mondial très tendu, car tous les pays vont vouloir acheter en grande quantité ce matériel dans les prochaines semaines. La pénurie guette. Après la pénurie de vaccins, attention à la pénurie de seringues.
Victor Delande, voilà donc pour la polémique à venir. Au chapitre des vieilles controverses qui ressurgissent, l'idée d'un confinement pour les seules personnes âgées et fragiles. Vous vous souvenez du tollé en avril dernier quand le professeur Delfraissy avait suggéré de garder les seniors à la maison pendant des mois? Eh bien, le conseil scientifique y est revenu dans son dernier avis paru en fin de semaine dernière, avec une recommandation forte d'autoconfinement pour des sujets âgés et fragiles. Une alternative au confinement général, soutenue par plusieurs scientifiques, Romain Oquet.
Oui, parce que les scientifiques le disent, on est aujourd'hui dans un contexte très différent de celui du printemps. Déjà, la circulation des nouveaux variants va aggraver l'épidémie dans les prochaines semaines, bien au-delà des 20 000 cas par jour. Aussi parce que, grâce au lancement de la campagne de vaccination, ce confinement des plus âgés, dit le conseil scientifique, serait limité à quelques semaines, le temps de recevoir la précieuse injection. C'est ce qui rend cette option envisageable, crédible, explique Gilbert Deray, chef de service à la Pitié-Salpêtrière.
Si on continue un programme de vaccination intense, et si ça ne dure que 2 à 3 mois, ça me paraît à ce moment-là légitime. D'un côté, on vaccine ces personnes en priorité, et de l'autre côté, ces mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités, acceptent de s'isoler pendant cette période pour qu'on ait le temps de vacciner le reste de la population et de mettre toute la population à l'abri.
Un confinement ciblé qui éviterait aussi de mettre à nouveau le pays à l'arrêt en fermant les commerces, les écoles. Alors cette décision concernerait quand même près de 15 millions de personnes si l'on prend les plus de 65 ans et les personnes avec une pathologie à risque. Un sujet pour l'instant balayé par Matignon. Cela créerait une rupture d'égalité, dit un conseiller. Comme au printemps, l'option n'est pour le moment pas sur la table du gouvernement.
Romain Noquet, les dépistages massifs ne le sont pas du tout. La campagne qui s'est achevée hier à Saint-Étienne n'a permis de tester que 4% de la population, moins de 7000 habitants. Même échec la semaine dernière à Roubaix. Environ 5% des habitants se sont déplacés. Emmanuel Macron au campus. Le président présente ce matin sur le plateau de Saclay, près de Paris, un plan d'investissement national d'1,8 milliard sur 5 ans dans les technologies quantiques, appelé à transformer l'informatique et l'industrie. C'est aussi l'occasion, on va en parler dans un instant avec Louis de Ragnel, de parler aux étudiants, population en détresse. Mais le président de la République a aussi eu quelques phrases pour évoquer justement les controverses en cours sur le plan sanitaire.
Chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible, et à se tromper pour pouvoir corriger le plus vite possible et s'améliorer. C'est ça ce qui fait une grande nation.
Emmanuel Macron, à l'instant, en discours sur le plateau universitaire de Saclay. Je le disais, Louis Dragnel, c'est l'occasion pour le chef de l'État de parler aux étudiants, de les rencontrer autant qu'il est possible, peut-être pas directement, étudiants, population en détresse.
Oui, cours à distance sans fin, absence de relations sociales et de perspectives d'avenir, précarité financière. La liste des souffrances évoquées par les étudiants est longue, suffisamment longue en tout cas pour qu'Emmanuel Macron se saisisse personnellement du sujet. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, le président avait reconnu qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Alors, il rencontre dans quelques minutes plusieurs étudiants sur le plateau de Saclay dans les Yvelines pour essayer de répondre au problème. La semaine dernière, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé le retour lundi prochain des travaux dirigés en demi-groupe. Et comme nous l'avons annoncé ici même, le gouvernement devrait aussi mettre en place un chèque pour que les étudiants qu'ils souhaitent puissent bénéficier sans avance de frais de 3 consultations chez un psychologue. Vous l'avez compris, les étudiants vivent de plus en plus mal cette crise sanitaire où l'héroïsme consiste à rester chez soi. Et Emmanuel Macron ne souhaite pas que la déprime étudiante se transforme en crise politique.
Louis de Ragnel.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite. Enquête ouverte sur une interpellation qui aurait provoqué une fausse couche et les premières heures de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les accusations sont graves et un juge va enquêter puisqu'une information judiciaire vient d'être ouverte. Une jeune femme de 23 ans qui était enceinte de 4 mois et demi affirme que l'interpellation musclée d'une policière en décembre à Garges-lès-Gonesse lui a provoqué une fausse couche, Gladys Laffitte.
Oui, Déborah est alors avec sa cousine. Elle se dirige vers la sortie d'un centre commercial. Elle ne porte pas de masque, alors 2 policiers les verbalisent. En s'éloignant des fonctionnaires, la cousine aurait dit des insultes. Elle est alors interpellée. Déborah s'interpose et dit avoir été brutalisée par l'une des policières.
Elle m'a attrapée par le bras. Elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais « je suis enceinte ».
Voilà, Déborah affirme avoir ensuite été secouée par cette même policière pour qu'elle s'excuse. 2 jours plus tard, la jeune femme est hospitalisée et finit par faire une fausse couche. Pour elle, ça ne fait aucun doute, il existe un lien de causalité entre ces événements et la perte de son enfant. De son côté, la policière mise en cause conteste ces accusations. Il s'agit maintenant d'établir les faits. Et pour cela, les enquêteurs ont plusieurs vidéos en leur possession, celles de témoins, celles de vidéosurveillance du centre commercial sous différents angles, mais aussi une caméra piéton d'un policier qui a enregistré du son. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun coup n'aurait été porté, la brutalité de la scène reste à établir et le corps du bébé a aussi été autopsié.
Gladys Laffitte. La mort à 82 ans de Maurice Agnolet, l'ancien avocat niçois condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat d'Agnès Leroux, l'héritière du palais de la Méditerranée, au cœur d'une guerre des casinos. Agnès Leroux disparue à la Toussaint 77, son corps n'a jamais été retrouvé, mais Agnolet, son amant, avait fini par être condamné 37 ans plus tard, en 2014, 2014. Il était sorti de prison à la veille de Noël pour raison de santé, avait rejoint son fils en Nouvelle-Calédonie et c'est là qu'il vient de mourir d'un arrêt cardiaque. À Washington hier soir, des flonflons, des stars, mais pas de public pour célébrer l'investiture de Joe Biden. Le nouveau président a dans ses premières heures multiplié les symboles de rupture avec son prédécesseur. Alexis Guillot, c'est une forme de retour à la normale qui s'opère à Washington.
Oui, et un des symboles de ce renouveau, c'est le retour des conférences de presse quotidiennes à la Maison Blanche. Le ton a été donné hier soir par Jen Psaki, la porte-parole de la nouvelle administration. Il y aura des moments où nous verrons les choses différemment dans cette salle. Ce n'est pas grave, explique-t-elle aux journalistes. Cela fait partie de notre démocratie et le rétablissement de la confiance avec le peuple américain sera chaque jour au centre de nos préoccupations au bureau de presse et à la Maison Blanche. Un changement radical. Souvenez-vous, il y a 4 ans, lors de sa première conférence de presse, le porte-parole de Donald Trump avait déclaré qu'il n'y avait jamais eu autant de monde à une investiture, point à la ligne, malgré toutes les photos qui montraient le public clairsemé devant le Capitole.
Un changement de ton avec la presse, donc. Alexis, que sait-on des premières journées de mandat de Biden ?
Eh bien, d'après le programme officiel, l'accent va être mis aujourd'hui sur la lutte contre la pandémie. Dans l'après-midi, le président signera de nouveaux décrets pour amplifier le combat contre le coronavirus et il détaillera sa stratégie pour accélérer la vaccination. L'objectif, c'est 100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours de mandat, c'est-à-dire d'ici fin avril. Demain, Joe Biden s'attaquera au volet économique de la crise en se penchant notamment sur l'aide aux plus démunis. Enfin, la porte-parole de la Maison-Blanche a également annoncé que le premier entretien avec un leader étranger aura lieu demain vendredi. Ce sera un appel téléphonique avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. Et enfin, un détour au rayon appareil ménager d'Europe Midi, section robot de cuisine. Avec cette question, le très populaire Monsieur Cuisine de Lidl pourrait-il être interdit à la vente en France? En tout cas, la justice espagnole vient d'ordonner à la marque de retirer son robot de rayon pour avoir copié son concurrent beaucoup plus cher Thermomix, Carole Ferry?
Oui, en fait, c'est la maison mère de Thermomix en Allemagne qui a porté plainte dans plusieurs pays pour violation de la législation sur la protection des brevets. Et je peux vous confirmer, c'est une information Europe 1, qu'il y a une procédure en cours également en France. Mais la justice espagnole a donc été la première à réagir et elle a conclu que oui, Lidl s'était beaucoup trop inspiré du Thermomix pour fabriquer son robot maison en reprenant quasiment toutes les caractéristiques. Sauf que le robot de Lidl est vendu 399 € contre 1200 à 1400 pour le Thermomix. Mais chez Thermomix, vous avez une centaine de salariés qui ne travaillent que sur la recherche de ces innovations et forcément ça a un coût. La sanction est tout de même très lourde. La justice espagnole demande à Lidl de stopper la vente de ses Monsieur Cuisine, mais elle lui interdit également d'écouler le reste de ses stocks, même gratuitement, même dans un autre pays. Par ailleurs, Lidl devra indemniser Thermomix à hauteur de 10% du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de ce robot cuisine. Et vu son succès, bien le montant pourrait être assez élevé. Lidl a toutefois encore la possibilité de faire appel.
C'est le Dallas des robots de cuisine. Merci à vous, Carole Ferry. Deux nouvelles de sport. Les JO de Tokyo auront bien lieu cet été. Il n'y a pas de plan B, déclare le président du CIO, Thomas Bach. Et puis Noël Le Graët, 79 ans, candidat pour un 4e mandat à la tête de la Fédération française de football. C'est officiel. Le temps, Anissa Adadi, la pluie au programme de l'après-midi.
Oui, les perturbations, Patrick, s'enchaînent les unes après les autres sur le pays. Cet après-midi, nous avons une nouvelle perturbation de la Bretagne au Pays de la Loire et même jusqu'au Poitou-Charentes. Il pleut donc sur toutes ces régions, des pluies qui sont accompagnées de vents forts jusqu'à 100 km/h. Et puis, en fin de journée, dans quelques heures, ces fortes pluies, accompagné du vent toujours, arrive sur la région parisienne et le Grand Est tout au long de la nuit. Ça va durer encore comme ça pendant plusieurs jours, hein, cet enchaînement de perturbations et de dépressions. À l'avant de la perturbation, de l'Alsace à la Provence, là le ciel est couvert avec des petites averses. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec. Les températures sont toujours douces, avec 8 degrés cet après-midi pour Aurillac, 10 à Lille et Strasbourg, 11 à Clermont-Ferrand, 12 pour Paris, 13 à Lyon et Nice, 14 à Bordeaux, 15 pour Biarritz et Montpellier. Et la maximale est prévue en Corse pour Bastia et Ajaccio.
Merci à vous, Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, invité d'Europe Midi, Thomas Lilti, cinéaste et médecin ou ancien médecin et cinéaste, il nous le dira, réalisateur de la série Hippocrate ou de Première année au cinéma. Il a retrouvé sa vocation de médecin pendant la crise sanitaire. Il le raconte dans un livre. À tout de suite.